crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me, babe.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Et aujourd'hui, contrairement à ce que nous faisons d'habitude, nous ne regardons pas un tableau, mais un site. Et un site extraordinaire qui a influencé tous les artistes depuis plus de 70 ans. Nous observons ensemble la grotte de Lascaux.
Les premiers dessins au mur des cavernes définissaient un champ de recherche illimité. Posaient le monde comme à peindre ou à dessiner. Appelaient un avenir indéfini de la peinture. Et c'est ce qui nous touche en eux. C'est ce qui fait qu'ils nous parlent et que nous leur répondons par des métamorphoses où ils collaborent avec nous. Maurice Merleau-Ponty, 1969.
Une colline calcaire est boisée surplombe d'une bonne centaine de mètres la vallée. Et là est Lascaux et ses galeries, creusées sans doute autrefois par un ruisseau souterrain et à l'intérieur de laquelle on s'enfonce peu à peu dans 230 mètres de galeries très hautes, de couloirs étroits, de dômes, de parois claires et bosselées qui offrent plancheurs et parapets bruns et suggestions des reliefs et de leurs ombres, où tournoient, cavalcades s'allongent, se déforment ou fuient les 600 animaux bruns, roux ou jaunes ou simplement gravés. Les 600 animaux donc d'un bestiaire fait de chevaux, bouquetins, aurochs, cerfs, rhinocéros, bisons et même un homme. Mais également parmi eux, des signes géométriques, des ponctuations, des incisions, près de 400 inscriptions réparties en une vingtaine de catégories environ. On divise généralement la grotte en 7 secteurs, la rotonde des taureaux par exemple, qui fait 6 mètres de haut, 9 mètres de large et 16 mètres de long, au plafond de laquelle tournent les silhouettes de taureaux immenses, ils font plus de 4 mètres de long, et entre eux, comme éloignés par une perspective, des cerfs aux ramures démesurées, des chevaux bruns, une licorne qui paraît gravide et qui nous conduit dans un long couloir de 3 mètres de haut et de près de 20 mètres de long, où chevaux chinois, taureaux à tête sombre, bouquetins, compose un des plus beaux ensembles de peintures de l'histoire. Si au lieu de s'être enfoncé dans ce long diverticule, nous avions tourné à droite, nous serions passés par un passage très bas, recouvert de gravures animalières plus ou moins subtiles, difficilement lisibles. Alors, poursuivant dans cette même direction, traversant une abside où paraissent se rassembler les animaux par centaines, cette fois-ci pour se disperser à nouveau, nous poursuivons vers le fond de l'abside et après avoir emprunté un passage vraiment périlleux, resserré et glissé de quelques mètres, nous sommes là, comme à l'intérieur d'un puits, au plus profond de la grotte, dans un silence absolu, là où il n'y a que silence, dans une noirceur plus noire que le noir absolu, où nous étions pourtant il y a un instant. Là, au-dessus d'une faille, dans le rocher brun, un bison dessiné à traits sombres d'une main vive et sûre est douloureusement blessé, les entrailles pendantes, sa tête est retournée. En arrêt, il fixe une silhouette, pas très adroite, allongé, bras écartés et sexe ou étui pénien dressé, à la place de sa tête d'homme, une tête d'oiseau étrange, et auprès de lui, une sorte de sagaie posée sur le sol, et surtout, comme dressée sur un bâton, une silhouette d'oiseau, curieux totem, qui paraît planté dans le sol, une énigme de plus dans cet étrange sanctuaire.
Le bison est littéralement hérissé de fureur. Sa queue est dressée, et ses entrailles se vident en lourdes volutes entre ses jambes. Devant l'animal, une sagaie est tracée de droite à gauche, coupant le haut de la blessure. L'homme est nu et ityphalique. Un dessin de facture puérile le fait voir couché de son long, comme s'il venait d'être frappé à mort. Ses bras sont écartés, ses mains ouvertes. Celles-ci n'ont que 4 doigts. Georges Bataille, 1955. Il y a là une révélation étrange, une révélation fondamentale. Mais tel sans doute que nous ne pouvons être surpris du silence incompréhensif, qui d'abord accueillit seul un mystère aussi chargé. L'image est d'autant plus étrange que ce mort au sexe levé, à la tête d'un oiseau, tête animale est si puérile qu'obscurément peut-être, et dans le doute, un aspect risible en ressort. La proximité d'un bison, d'un monstre qui, perdant ses entrailles, agonise, d'une sorte de minotaure qu'apparemment cet homme mort et ityphalique, avant de mourir, a tué. Il n'est sans doute pas au monde d'autre image aussi lourde d'horreur comique, au surplus inintelligible. Il s'agit d'une énigme désespérante, avec une risible cruauté se posant à l'aurore des temps. Cette énigme, il ne s'agit pas vraiment de la résoudre. Mais s'il est vrai que les moyens nous manquent de la résoudre, nous ne pouvons nous dérober. Elle est inintelligible sans doute. Elle nous propose du moins de vivre dans sa profondeur. Elle nous demande, étant la première humainement posée, de descendre au fond de l'abîme ouvert en nous par l'érotisme et la mort. Georges Bataille, Les larmes d'Eros, 1961.
Nous entendions en effet Georges Bataille, et pour évoquer cette grande énigme dont le grand écrivain et penseur parle, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui un homo sapiens très particulier, un paléanthropologue immense. Monsieur Coppens, merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer justement l'énigme de Lascaux. Ma première question peut-être serait de vous demander pourquoi, alors qu'aujourd'hui il y a près de 70 000 sites préhistoriques recensés, des millions de gravures et de peintures qui sont répertoriées dans le monde, Lascaux garde une importance dans notre esprit, en tout cas particulière. La mérite-t-elle ?
Oui, je pense qu'elle le mérite tout à fait. Ceci étant dit, c'est toujours difficile de répondre à ce choix d'emblème, en quelque sorte. Songez, par exemple, que la petite Lucie, je ne veux pas la ramener à chaque fois sur le tapis, mais en l'occurrence...
Que vous avez découvert en 1974.
Formidable. Et la petite Lucie, elle est moins incomplète que les autres, elle a 40% de son squelette, elle a 3 200 000 ans. Depuis, on a trouvé beaucoup plus vieux, on a trouvé beaucoup plus complet. Et malgré ça, elle demeure emblématique. On parle d'elle et on ne parle pas trop des autres.
Alors qu'il y en a une ou deux plus anciennes.
Beaucoup plus anciennes.
Là, Lucie, on est à 3 millions 2, on est dans le préhumain, vraiment, dans la période préhumaine.
Absolument. Mais c'est pas pour parler de Lucie que je vous dis ça, mais le côté emblématique des choses, des êtres, des constructions, des architectures, c'est toujours un petit peu mystérieux. Alors, en ce qui concerne Lascaux, c'est incontestablement une grotte somptueuse, une grotte superbe. Bien que ne connaissant pas véritablement l'art, n'étant pas du tout expert, la première réaction quand on est à Lascaux, c'est d'admirer comme on admire, une galerie de peinture. Je pense toujours à Rembrandt, je pense toujours au Rijksmuseum d'Amsterdam, où j'ai eu un petit peu la même impression. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal.
Vous vous évanouissez devant les Rembrandt, mais on est peut-être un point commun, et d'un point de vue métaphysique, j'emploie ce mot et pas d'un point de vue simplement physique, c'est un aspect très nocturne. C'est chez Rembrandt et dans Lascaux.
Sans doute, oui. Je n'avais pas pensé à ça, mais peut-être qu'il y a un rapport. En tout cas, ce que l'on peut dire sur le plan objectif et un petit peu froid de Lascaux, c'est que Lascaux, pour les paléontologues, pour les préhistoriens, a vraiment l'air d'être un sanctuaire peint par un seul atelier, au fond. Peint par un peintre et son atelier et ses assistants. Autrement dit, il y a une homogénéité qu'on ne trouve pas dans les autres grottes, qu'on ne trouve pas à ce point. Et là, c'est peut-être une des faveurs, enfin une des conditions extraordinaires, exceptionnelles de Lascaux.
Vous dites qu'il y a une seule main, ça veut dire que l'organisation générale du sanctuaire, on reviendra sur ce mot que vous utilisez pour être bien certain de ce que ça veut dire, a été conçue par une personne, ou en tout cas un groupe très très homogène.
Absolument, mais je pense à la structure, évidemment, mais la structure elle est peut-être dictée comme elle a été dictée dans d'autres grottes, mais je pense surtout au style. C'est-à-dire que les bêtes sont faites d'une certaine façon et toutes sont faites de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un coup de patte qui est un coup de patte d'atelier, quoi, en quelque sorte. On connaît bien ça, hein, même lorsque le maître disparaît, les assistants poursuivent un petit peu le même style.
Donc on sent la main
style.
Ah, et oui, des oui. codes. Par exemple, il me semblait qu'il y avait quelques grottes qui étaient assez proches quand on voit les... Alors, je pense à Altamira en
bien
Espagne,
sûr,
hein, qui
sûr.
A été découverte vers oui. 1870 à peu près, et qui a oui. été d'ailleurs très débattue. On est dans un style assez voisin
Tout à fait. Enfin, le style qu'on appelle franco-cantabrique, et qui est donc paléolithique, qui est donc de ces époques du Magdalénien, solutréen, etc.
Autour de 20 000 ans.
Autour de 20 000 années. Est assez homogène dans cet ensemble-là, mais homogène en ce sens que c'est une même population. Je crois pas, je ne sais pas si c'est le même artiste qui a circulé, mais en tout cas une même population qui a la même croyance et qui du coup a les mêmes mythes, et ce sont ces mythes qui sont dessinés ainsi dans les grottes. Je veux dire qu'à une époque où il n'y avait pas de flyers, où on ne pouvait pas faire circuler des livres, on faisait descendre les gens, les privilégiés, devant les peintures, j'allais dire les fresques, mais ça n'en sont pas, devant les peintures, et on les faisait passer devant les peintures en leur racontant ce dont il s'agissait. C'est-à-dire que lorsque la peinture n'est pas transportable, ce sont les gens qui le sont.
Quand vous dites qu'il y a un style voisin, pas forcément la main de l'artiste qui est voisin dans telle ou telle grotte du pré-cantabrique, mais ou du franco-cantabrique plus exactement, est-ce que vous voulez dire que les codes qui ont présidé à la construction de ces ensembles, à la conception de ces ensembles, seraient quasiment établis, un petit peu comme un peintre byzantin ressemble pas si loin d'un autre peintre byzantin.
Oui, je parlais tout à l'heure d'atelier, enfin je ne sais pas si les termes sont justes, mais d'atelier
juste.
À propos de Lascaux. Et on peut parler d'école à propos de cet ensemble France et Nord-Ouest de l'Espagne. Et c'est tout à fait impressionnant. En effet, Altamira en particulier a beaucoup de points communs avec Lascaux. Et il se trouve que le conservateur d'Altamira, qui hélas s'est tué récemment dans un accident de voiture, je l'ai pris tout de suite dans mon conseil scientifique de Lascaux. C'était un monsieur qui s'appelait Lacheras, qui était tout à fait remarquable. Il venait apprendre des choses sur Lascaux pour mieux comprendre Altamira. Et lorsqu'il m'a dit « Je ne pourrai pas venir souvent, mais je ne veux pas démissionner. Je veux absolument suivre vos travaux parce que ça éclaire les miens. » C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le même ordre d'idées, dans le même ordre d'artistes, dans le même ordre de peinture, dans le même ordre de culture.
Alors, évidemment, on parle de durée extrêmement longue, mais... peut-être que c'est un petit peu lourd de vous poser cette question tout de suite, mais simplement pour clarifier les choses pour nos auditeurs. Vous avez d'abord parlé de sanctuaire. Ça veut dire qu'on est bien au clair, que nos auditeurs le sachent, il ne s'agit pas d'habitat. On est bien dans un lieu qui a une autre fonction que celle de l'habitat. Par contre, on parle de ce style franco-cantabrique, du magdalénien, et... On est dans un style qui est extraordinairement beau et particulier et pas du tout réaliste, hein, parce qu'il y a une extension, une déformation, une déformation spectaculaire des animaux.
Oui.
On aurait pu penser que ce style soit l'aboutissement d'un progrès fait par les artistes. Mmh. Et on a découvert quand même, il y a quelques années, Chauvet, qui est aussi extraordinairement beau, qui a 15 000 ans de différence, et dont le style est aussi abouti, différent, mais aussi abouti. Mmh. Il n'y aurait donc pas de progrès.
Ben, c'est-à-dire que c'est difficile d'envisager un progrès en peinture, sauf un progrès dans les techniques, si vous voulez. Et en l'occurrence, il se trouve que Chauvet et Lascaux sont en effet des chefs-d'œuvre, qu'ils présentent des animaux comparables et des animaux différents. Donc le discours qui est derrière n'est pas tout à fait le même. Et alors qu'il y a un certain nombre d'années, on pensait qu'il y avait une seule grande école quand même sur 20 000 années, c'était quand même beaucoup d'avoir une école de peinture sur 20 000 ans. On s'aperçoit heureusement aujourd'hui, grâce à ces découvertes, qu'il y a eu des sommets dans cet art, puis des périodes plus calmes, puis d'autres sommets, etc. Et entre Chauvet et Lascaux, il y en a eu certainement plusieurs. Alors, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, si vous permettez.
Bien sûr.
En effet, les hommes n'habitent pas dans les cavernes. L'homme des cavernes, c'est un mythe aussi, c'est un autre mythe. Il a habité quelquefois sous les entrées, sous les auvents.
Oui, les porches, en fait.
Ce qu'on appelle des abris sous roche.
Oui.
Parce que là, il avait le jour, et donc il pouvait s'éclairer. Enfin, il peut s'éclairer aussi à l'intérieur, mais différemment. Et il se trouve que dans certaines grottes, à Cussac, par exemple, on a trouvé non seulement un habitat, mais même des sépultures à l'entrée. Et on a pensé au début, bien sûr, que c'était des sépultures plus récentes que les peintures de la grotte, en fait, et les sculptures, les gravures de la grotte. Et en fait, c'est contemporain, c'est-à-dire que l'homme n'est pas là, mais il n'est pas loin.
Mais à Lascaux, au fond, le sol de Lascaux n'a pas été fouillé, si je ne me trompe pas.
Le sol de Lascaux a été collecté.
Juste pour les portes
Oui, c'est-à-dire que malheureusement, c'était pour une très bonne intention, le propriétaire, qui s'appelait La Rochefoucauld, a souhaité, dès que la grotte a été découverte, ou presque, l'ouvrir au public. Alors, l'ouvrir au public, ça a consisté à débarrasser l'entrée, le bouchon qui était à l'entrée, puisque l'abri sous roche s'était effondré. Et ça a fait de Lascaux une espèce de bulle, comme ça, à l'intérieur du massif calcaire dont vous parliez. Et l'entrée de la grotte s'étant effondrée, il y avait un bouchon de 1000 mètres cubes. Donc, on a retiré ce bouchon, ce qui, évidemment, a entraîné des perturbations dans les écosystèmes intérieurs, dans les appels d'air, etc. Et d'autre part, on a aménagé le sol pour que les gens puissent visiter en tout confort. Et aménager le sol, ça veut dire le détruire. Vous avez tout à fait raison. Alors, heureusement, il y avait des préhistoriens de qualité, des préhistoriens responsables qui ont ramassé tout ce qui la plupart des choses qui se trouvaient sur le sol. Et ces collections sont conservées et sont pleines d'informations. Par exemple, à propos de l'éclairage, on a quand même une quarantaine de pierres un petit peu concaves qui ont servi d'éclairage, en quelque sorte.
La fameuse pierre en grès rose, la fameuse.
Ah oui, celle-là est superbe, mais il y en a une superbe, il y en a une gravée, magnifique. Mais les autres, ce sont des roches tout à fait ordinaires. Vous savez, dès qu'il y a un petit creux, vous mettez de la graisse. Vous pouvez faire l'expérience aujourd'hui. Mettez un bout de lichen, par exemple. Mettez le feu, ça dure un certain temps. Hein.
Alors, je vous propose, Yves Coppens, d'écouter à présent le découvreur de la grotte. Est-ce qu'on dit le découvreur ou l'inventeur? Je ne sais pas.
Les deux.
L'abbé Breuil, je pense à l'abbé Breuil. Mm-hmm. Écoutons-le quelques instants.
Cette découverte égale comme valeur et comme art, celle de la caverne cantabrique. Et de plus, elle l'explique comme un admirable précurseur donne la raison de l'œuvre des générations ultérieures. Comme la première renaissance florentine, avec Fra Angelico, Botticelli, Filippo Lippi, annonce, prépare, sans les éclipser, les grands maîtres de la seconde renaissance, les Raphaël, les André del Sarto, les Titiens et les Véronèses. Henri Breuil, 1941.
Dans le coin de cette salle se trouve un puits de 7 mètres de profondeur, au fond duquel une fresque plus limitée existe, représentant un homme tombé mort sur le dos, ayant laissé tomber à ses côtés le propulseur à crochet dont il s'était servi, pour jeter sur un bison une sagaie qui l'avait certainement blessé. Et le bison était devant lui, lui faisant les cornes, si je puis dire, mais ne courant pas, car il a été éventré. Et je ne pense pas qu'un simple coup de sagaie puisse obtenir ce résultat. Je pense qu'à gauche se trouve un troisième acteur, le rhinocéros, la toison laineuse qui s'écarte de ces deux autres acteurs, et qui est probablement l'auteur de la mort de l'homme et de l'éventrement du bison. Il s'en va tranquillement, l'air tout à fait satisfait du travail réalisé.
Et je suis avec Yves Coppens, le célèbre paléontologue, professeur émérite au Collège de France. Et nous parlons, comme vous l'avez entendu, de la grotte de Lascaux. Et nous venons d'entendre une description de la figure du puits par le pape, disait-on, de la préhistoire, l'abbé Breuil, que vous avez connu,
oui, Yves Coppens. Oui, très bien.
Et dans le mot qu'il a dit par rapport à cette scène, et avant d'aller dans une vision plus large de la grotte de Lascaux, il a dit « j'ai vu, il y a trois acteurs ». Et en disant « il y a trois acteurs », on a l'impression qu'il y a un film. Est-ce que la métaphore du cinéma par rapport à la préhistoire et à la peinture de la préhistoire a quelque chose de juste ?
Moi, j'ai vraiment l'impression que les peintures successives ne sont pas posées comme ça, n'importe comment, les unes à côté des autres, mais s'enchaînent.
Donc il y a un programme.
S'enchaînent, c'est une histoire en quelque sorte. On défile devant et au fur et à mesure que l'on défile, quelqu'un vous raconte l'histoire de la fresque pour que vous la mettiez bien, vous la preniez bien dans votre tête et que ça représente véritablement le mythe d'origine, comme il y en a partout, qui lie les éléments d'une société. Et c'est pour ça qu'on pense que ces sanctuaires recevaient préférentiellement les jeunes gens au moment d'un changement de classe d'âge, par exemple, c'est-à-dire au moment d'une initiation. Et j'ai eu dans mon laboratoire un garçon qui s'appelait Michel Garcia, qui hélas est mort, et Michel Garcia étudiait les sols des grottes. Alors évidemment, il n'a pas étudié le sol de Lascaux, puisqu'on en a parlé, il a été très vite détruit, mais il a étudié le sol de bien d'autres grottes, et il observait que la plupart des empreintes de pas que l'on trouvait, lorsque ces empreintes de pas étaient très denses, c'était des empreintes de jeunes, d'adolescents, disons. Et il a même observé dans certaines grottes que ces pas étaient quelquefois rythmés, c'est-à-dire que devant la grotte, il y avait sûrement des sortes de danses, avec bien sûr une musique qui allait avec cette...
Donc ça confirmerait le fait que un passage d'adolescence, par exemple, serait le moment initiatique juste, que ce serait un rite de passage, tout simplement.
Vous savez, c'est ce qu'on a au fond dans les grands temples, quoi. C'est ce qu'on a dans les églises, les synagogues, les mosquées, etc. C'est-à-dire qu'il y a une richesse de symboles, et ces symboles font, comme je le disais, une société. Ce que fait la société, elle essaye de rester le plus soudée possible pour être la plus forte possible, et on ne peut être soudé qu'en étudiant les mêmes rites, les mêmes mythes, et la même histoire, le même mythe d'origine en particulier, quoi. Alors je reviens un tout petit peu sur Bataille et Breuil. Georges Bataille a été finalement plus rigoureux que ne l'a été Breuil, parce que Breuil impose le rhinocéros comme un des acteurs, c'est possible. Rien ne dit qu'il l'a été, il est là planté dans le décor, c'est vrai. Il a l'air paisible, en effet, il n'a pas l'air d'ailleurs d'avoir participé à la scène du tout, mais ça c'est autre chose. Et Breuil s'avance un petit peu en interprétant, alors que je pense que tout préhistorien devant pareille chose peut décrire la peinture, peut décrire en l'occurrence la scène, ce qui est encore une fois exceptionnel dans cet art du paléolithique, qui est plutôt fait de figures juxtaposées. Et cette description n'impose pas, enfin malheureusement, ne permet pas de découvrir le contenu. C'est un contenant, mais le contenu nous échappe. Et c'est très dangereux d'interpréter.
Qu'il y a eu des interprétations.
Il y en a beaucoup, mais peu importe. Les gens ont tout à fait droit d'interpréter. Hein.
D'ailleurs, au fond, c'est peut-être ça le sens de l'art, c'est de nous permettre d'interpréter des figures.
Oui, enfin, l'art permet de voir, quoi. C'est pas, on ne voit pas avec les yeux, on voit à travers, on voit mieux à travers l'art, je trouve. Et en ce sens, oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Parce que c'est de l'art, ça a été aussi soulevé un peu bêtement à mon avis, c'est de l'art au sens propre. C'est bien qu'il y ait tout cet aspect religieux et tout cet aspect spirituel et tout cet aspect mythologie d'origine, il est certain que ça n'en est pas moins de l'art et il est certain que les gens qui étaient les peintres étaient des peintres à part entière, c'était des peintres tout à fait spécialisés, c'était des artistes, et non pas n'importe qui de la société qui était appelé là pour peindre, c'est évident.
Alors, évidemment, ce que sont ces artistes à l'époque? Est-ce qu'ils vont d'une grotte à l'autre, d'un sanctuaire à l'autre? Est-ce qu'ils sont recherchés comme des artistes de la Renaissance qui vont...
C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Moi, j'ai été très frappé, vous voyez, par le fait que, je n'y avais pas pensé auparavant, par le fait que dans une société nomade, il y a des points fixes. Tous les êtres de la préhistoire, tous les hommes préhistoriques, ont été nomades pour des questions d'alimentation, pour des questions de vie, pour des questions de nourriture, pour des questions d'opportunité. Ils sont opportunistes avant tout pour vivre. Et donc, ils sont nomades jusqu'à la période néolithique, c'est-à-dire jusqu'à il y a une dizaine de milliers d'années, où, pour des raisons climatiques, ils s'arrêtent pour mieux cueillir, puis ensuite pour planter. Mais donc, ce nomadisme, ça veut dire que les gens bougent. Et ils bougent souvent de manière saisonnière, c'est-à-dire assez peu dans un territoire assez limité, mais il n'empêche qu'ils bougent. Et ces sanctuaires étaient forcément des lieux fixes, et pour un sanctuaire de cette qualité, il devait y avoir quand même des sortes de gardiens, enfin je sais pas moi, ou des sortes de prêtres qui étaient gardiens en même temps. J'ai travaillé en Mongolie il y a très peu de temps, et il y a des petits villages de yourtes partout, qui sont aussi nomades, qui circulent à travers la steppe en fonction des pâturages. Et allant moi-même vers un gisement, j'ai rencontré de ces petits villages nomades, et j'ai rencontré un cimetière. C'est très impressionnant. C'est la première fois que je prends conscience de ça. Et ce cimetière était là, planté au milieu de nulle part, sans personne autour, alors que les tombes, il y avait des tombes très fraîches, quoi. C'est-à-dire que c'était véritablement un point fixe.
C'est-à-dire un lieu où les nomades vont faire retour à certains moments avec une certaine régularité.
Absolument. Et Lascaux, c'est ça, quoi. C'est ça aussi. C'est Lascaux, les autres grottes, bien sûr.
J'ai l'impression de sortir un peu de Lascaux, mais certainement pas du sujet, en vous posant deux questions. Je crois que vous avez, dans un livre sur la naissance de l'humain, que vous avez préfacé, vous avez dit, voilà, 3 millions d'années, le cerveau a évolué, l'homme s'est construit physiquement, autrement, et surtout, désormais, il sait qu'il sait.
Oui.
J'ai trouvé que c'était une expression extrêmement belle. Et est-ce que quand il sait qu'il sait, on pourrait se dire que c'est le moment où il s'interroge aussi sur la symbolique, les raisons du monde? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça serait ça, la naissance de l'art?
Ah oui. La naissance de l'art aussi, je pense. Vous voyez, savoir que l'on sait, c'est par définition même, par évidence, une réflexion. Quand vous êtes devant un miroir, on dit que le miroir réfléchit votre image. Et c'est vous êtes devant un miroir qui réfléchit et vous réfléchissez vous-même. C'est la naissance de la réflexion.
Mais à ce moment-là, Monsieur Coppens, s'il y a en même temps, vous le décrivez, une transformation physique incroyable, c'est-à-dire que il commence à parler, le palais s'arrondit, le larynx s'abaisse, et curieusement, vous faites une association que j'ai trouvée très éclairante. Vous dites, à ce moment-là, la manipulation se transforme et il maîtrise sa main, pas seulement pour s'accrocher, mais pour travailler.
Oui, c'est-à-dire qu'en gros, de manière très, très grossière et très rapide, avant cette période-là, l'homme se transforme, à mon avis, uniquement, j'ai travaillé là-dessus, hein, dans le sud éthiopien pendant 10 ans, uniquement pour, comme les autres animaux de l'époque, s'adapter à un nouveau changement climatique. Alors, il y a des bêtes qui se transforment par leurs pattes, comme les chevaux, qui courent plus vite dans un milieu où ils sont plus découverts, puisque c'est une sécheresse, et où, du coup, ils sont plus à même d'être attrapés par les prédateurs. Les éléphants, qui sont moins gênés par les prédateurs, ont des dents qui augmentent de volume parce qu'ils mangent de l'herbe au lieu de manger des feuilles, et quand on mange de l'herbe, ça use plus les dents. Et les hommes changent leur tête, au fond, leurs mains, d'une certaine manière, et leur voie respiratoire supérieure. Le changement des voies respiratoires supérieures, ça entraîne par conséquence pirate, le langage articulé, alors qu'auparavant il était modulé, comme vous l'avez dit, par la libération de la langue, qui devient beaucoup plus mobile, pour différentes raisons, mais je ne veux pas insister là-dessus. Et la tête devient beaucoup plus importante par le nombre des circonvolutions, donc le volume, la quantité, le contenu et l'irrigation aussi, ça va de soi. Et puis là, la main a une saisie plus, plus consciente. Mais tout ça, au fond, ce sont des éléments qui sont là pour que l'homme invente des stratégies pour échapper aux carnivores, c'est toujours pareil. Et puis, cette destinée pirate, quoi, de servir à autre chose. Et autre chose, je l'ai dit souvent, je pense vraiment que c'est tout d'un coup. C'est-à-dire que cet homme, ce que vous avez dit à l'instant, ce premier homme, il est déjà artiste, il a déjà cette notion de...
Dès qu'il a le langage, il a le faire, en fait.
Moi, je crois, parce que, évidemment, à ces époques-là, sur le plan scientifique, on a de la peine à vérifier ça. Mais à partir du moment où vous faites une pierre taillée, par exemple, vous taillez une pierre. Tailler une pierre, que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez une pierre dans une main, vous prenez une pierre dans l'autre main, vous tapez avec la première sur la seconde, et vous en faites une troisième, vous faites une troisième forme. Et c'est une création. C'est-à-dire que vous avez tout de suite entre vos mains, le premier homme a tout de suite entre ses mains, une création, une sculpture, une œuvre qui est tout de suite un symbole, quoi. Et si le symbolisme apparaît, la spiritualité aussi, si le symbole apparaît, c'est qu'il est aussi lié à l'art, la forme est déjà perçue à ce moment-là, puis elle est déjà perçue puisqu'il y a des essais variés qui font des formes variées, et tout de suite, certaines formes sont retenues et multipliées, c'est-à-dire qu'elles sont apprises, il y a une communication entre les gens, elles sont apprises et elles sont faites à des milliers, des millions d'exemplaires. On retient une forme parce qu'elle est plus efficace et peut-être parce qu'elle est plus belle.
Donc on sait faire, on a le langage, on peut commencer à s'interroger sur ce que l'on est. La culture naît comme cela.
Voilà,
et en s'interrogeant sur ce que l'on est, on commence effectivement les rituels alors, et les inquiétudes manifestées, oui. C'est-à-dire la construction symbolique.
Ben, la conscience de la mort.
Hein. Oui.
C'est la conscience de la mort des autres et la conscience de sa propre mort. Et ça, c'est encore présent aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme est le même aujourd'hui qu'à ses débuts. Il est à la fois libre, étonnamment libre, mais en même temps responsable de sa liberté. Et il a, comme vous dites, cette réflexion meilleure, de plus en plus importante d'ailleurs. Et il a cette capacité des mains qui fait qu'il va s'en servir de mieux en mieux. Et en liant les mains, il y a toujours une conversation entre les mains, un dialogue entre les mains, la tête et le langage.
Et vous dites à ce moment-là que la nature, alors ça c'est assez intéressant, vous dites la nature qui jusque-là était obsédée par l'espèce va être obsédée par l'individu.
Ben, il me semble, quoi, parce que moi je suis très frappé de voir dans la nature combien j'ai vécu beaucoup en brousse, à une certaine époque j'étais plus souvent sous la tente que dans mon lit. Et j'ai toujours été étonné par le fait que la nature produisait énormément pour récolter peu. C'est-à-dire qu'il y avait une obsession de conserver l'espèce à tout prix, et quelquefois ça ne marchait pas, d'autres fois ça marchait. Et comment on peut faire ça? On peut faire ça soit en tentant une évolution, une adaptation à des milieux qui changent, mais quelquefois c'est raté. Et on peut faire ça aussi en multipliant les exemplaires. Et puis, il y a une partie qui est condamnée et l'autre partie qui survit, ou pas. Donc, je suis très frappé par ça. Et d'autre part, vous savez bien, enfin, il suffit de regarder la société d'aujourd'hui. Elle est héritière de celle des premiers hommes. Celle des hommes de Lascaux, bien sûr, mais ce n'est que 20 000 ans. Celle des premiers hommes, c'est 3 millions d'années. Et cette société d'aujourd'hui est la même que celle du début, en ce sens qu'elle s'intéresse, elle, à l'individu, c'est-à-dire que l'obsession, c'est la personne. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de liberté et de responsabilité, et vous savez bien que la liberté, tout le monde en a pris conscience, la responsabilité, peut-être un peu moins, quoi.
Et ça, vous diriez cela à partir de la scotche au vert, enfin de l'homme moderne que nous sommes, c'est-à-dire d'il y a 40-50 000 ans, à peu près.
Oh, bien avant.
Bien avant.
Ah, pour moi, c'est dès 3 millions d'années.
Dès 3 millions d'années.
Je peux
donc
vous faire peur, mais...
Australopithèque.
Non, après. Juste après. C'est le genre humain, le genre homo, qui a tout de suite une tête différente, pour des raisons que je vous ai dites, c'est-à-dire que les raisons, elles sont au départ tout à fait darwiniennes. C'est pour arriver à s'adapter à un milieu qui devient
bien plus, que vous ne soyez pas toujours d'accord avec Darwin, je sais.
Oui, Darwin m'énerve un peu parce que il n'a pas été très très honnête, quoi. Il a fait comme beaucoup.
Trop d'importance donnée au hasard et pas assez à l'adaptation, à l'intelligence de la matière.
C'est-à-dire qu'il a écrit ces choses merveilleuses au XIXe siècle et qui s'était inspiré d'un certain nombre d'autres auteurs d'ailleurs, et ça il ne le dit pas, mais ça va de soi, c'est normal. Et d'autre part, depuis deux siècles, évidemment, les choses ont changé, les choses ont évolué. Et on a une autre idée de l'évolution que celle qu'il avait. C'est de la publicité anglo-saxonne que d'appeler l'évolution le darwinisme. L'évolution, c'est l'évolution. Ce n'est pas que le darwinisme, c'est le darwinisme plus beaucoup d'autres choses. Il y a une fluidité du génome que Darwin était loin de comprendre à son époque. C'est normal, il n'y a pas de raison.
On a du mal à imaginer que l'homme moderne, l'homme de Lascaux, soit déjà exactement ce que nous sommes. Je pense qu'il y avait extrêmement peu de différence et dans sa pensée et dans sa façon d'agir.
Oui.
Ou si.
C'est-à-dire que c'est vrai et pas vrai, quoi. Il est vrai que c'est un homo sapiens, il est vrai qu'il devait être très proche de nous, il est vrai que si on le rencontrait, on serait surpris de cette proximité. Ceci étant dit, il vivait quand même dans un autre monde, dans un autre milieu, dans une autre nature. Il vivait dans un milieu de nomades d'abord, avec quand même de temps en temps des problèmes de survie et d'alimentation, avec ses croyances qui ne sont pas les nôtres. Ceci étant dit, depuis 3 millions d'années, il y a dû avoir beaucoup de mythes d'origine, et ils sont tous respectables.
Mais c'est assez impressionnant de voir à quel point, dans cette population de chasseurs-cueilleurs, les mythes, ou en tout cas les figures importantes que les parois des grottes nous révèlent, je pense à l'importance du taureau, à l'importance de la déesse mère, etc., sont proches de ceux qu'on a continué jusqu'à il y a 2000 ans, et encore aujourd'hui, d'avoir.
Il y a sûrement une mémoire. Une mémoire qui dure et qui, bien sûr, comme toute mémoire, efface certaines choses et en garde d'autres. C'est-à-dire qu'on garde, regardez aujourd'hui, le nombre de fêtes que l'on a, de commémorations que l'on a. Il y en a que l'on ne peut certainement pas associer à ces éléments d'origine. Et en ce sens, je vous dirais quelque chose qui m'amuse beaucoup, mais dont je ne suis pas sûr du tout, c'est que le roi Gourand m'a toujours dit, André le roi Gourand, qui était mon prédécesseur au Collège de France, m'a toujours dit qu'il avait visité beaucoup de grottes et qu'il y avait toujours à l'entrée, qu'il y avait souvent à l'entrée, parce qu'à Lascaux, c'est pas vrai, un bison et un cheval. Un bison et un cheval. Comme si on était accueilli par... il y avait une structure dans la grotte, ce que je crois vraiment. Et donc, le bison et le cheval vous accueillent. Or, c'est amusant de voir que l'enfant Jésus se trouve dans une crèche et il a au-dessus de lui, comme par hasard...
Le bœuf et l'âne.
Le bœuf et l'âne, oui. Alors, il y a peut-être, je dis ça, j'allais dire, je n'oserais jamais le dire, mais si, puisque je le dis, j'y ai pensé, et ça voudrait dire une tradition de 20 000 années, et évidemment, on a oublié le sens de cette tradition, enfin, de cette origine du mythe à Lascaux et ailleurs, alors que la crèche, on la connaît, mais on a perdu le fil. Dans la mesure où c'est vrai, parce que je ne suis pas sûr.
C'est peut-être disons que c'est un hasard objectif, comme dirait André Breton.
Absolument.
Voilà. Et donc, sanctuaire, ça veut dire que il y a un programme, qu'il y a des rituels,
oui,
qu'il y a une signification à transmettre.
Absolument.
Et donc, c'est une. Est-ce que les gens de Lascaux et du monde franco-cantabrique pouvaient lire les uns les autres les grottes comme un initié pouvait lire à peu près de la même façon une grotte et une autre, savait, comme on le sait sur des vases grecs, à quoi se réfère telle et telle chose. C'est ce que vous supposez?
Ah oui, sûrement. Enfin, sûrement, on ne peut pas dire pareille chose en science, mais il y a toutes les chances, oui. Parce que c'était le même monde, donc c'était probablement les mêmes enseignements. Et c'était probablement les mêmes mythes qui liaient cette société. Par contre, je ne suis pas sûr que les hommes de Lascaux visitant Chauvet comprennent tout, quoi, en quelque sorte.
Pourtant, c'est nous qui arrivons tellement après et qui ne comprenons pas grand-chose. Oui, on n'a pas la sensation d'être dans un univers psychique très différent.
C'est vrai. C'est vrai. Mais psychique, comme vous dites. Mais peut-être que ça leur ferait l'effet de la crèche dont je vous parlais tout de suite.
Oui.
Y a peut-être un oubli aussi de ce que ont été ces gens de Chauvet et leurs prédécesseurs. Hein. Il y a des statuettes dans le Jura souabe qui ont 40 000 années bien sonnées. L'Homo sapiens est arrivé il y a une cinquantaine de milliers d'années en Europe, l'homme moderne.
Alors, oui, peut-être avant de revenir sur l'art et sur. Parce que c'est tellement passionnant de vous avoir, j'ai tellement de questions à vous poser. Quand même, pour aller un peu plus loin sur ce qu'il y a sur ces parois, il y a aussi ces signes abstraits.
Ah oui.
Ces blasons, ces traits, ces ponctuations. Il semblerait que quelques-uns d'entre eux, en tout cas ça a été l'hypothèse de quelques interprètes, sont retrouvés dans différentes parties, sinon au moins d'Europe, mais peut-être même au-delà.
Oui, c'est-à-dire que pour moi, depuis toujours, ça, c'est une écriture. Et c'est une écriture tout simplement parce que c'est l'association superbe figure animalière, en général animalière, que l'on connaît, que l'on décrit, que l'on admire, et signe abstrait qui fait sens, en quelque sorte. Et l'association de l'un et de l'autre est souvent la même, et souvent partout la même. Donc, ça veut dire que c'est une écriture qui n'est pas linéaire, et en ce sens, on ne l'a pas perçue comme telle au départ, mais ça n'en est pas moins une écriture. La preuve, c'est que les jeunes gens supposés qui passaient devant ces peintures devait réciter au fil des images et des signes abstraits un certain texte qu'on leur mettait dans la tête pour le meilleur de leur société et du coup de
réciter, c'était peut-être chanter aussi d'ailleurs.
C'était peut-être chanter, oui, bien sûr.
Oui, tout à fait.
Avec le face à face de certaines figures qui se renvoient, c'est bien dit dans le livre que vous avez là. Qui vous renvoie.
Vous parlez du livre, j'en profite pour le citer. Donc, c'est un livre qui vient de sortir aux éditions Sud-Ouest par Hervé Chassin et Denis Tox, un journaliste et un préhistorien, qui s'appelle La grande histoire de Lascaux, de la préhistoire au XXIe siècle, et que vous avez préfacé, et qui est un très bon livre, en effet.
Oui, je pensais à Denis Tox, qui raconte ça très bien, parce qu'il a fait visiter Lascaux 2 pendant des années, il doit continuer d'ailleurs. Maintenant, peut-être Lascaux 4. Et il montrait la manière dont une paroi renvoyait à l'autre, en quelque sorte. Et en ce sens, ça ressemble à des stances, ça ressemble à des sourates, ça ressemble à des poèmes, ça ressemble... Enfin, c'est très joli, d'ailleurs, puisque souvent, les mythes étaient chantés, comme vous dites, et étaient poétiques. C'est une manière aussi de retenir un peu mieux ce qui fait le lien de la société.
Écoutons enfin un nouvel extrait de Georges Bataille, donc à ce propos-là, un extrait de Lascaux ou la naissance de l'art, dans lequel il évoque justement ce qui fait œuvre d'art.
C'est de l'homme de Lascaux qu'à coup sûr, et la première fois, nous pouvons dire enfin que faisant œuvre d'art, il nous ressemblait, qu'évidemment c'était notre semblable. Nous devons souligner qu'il témoignait d'une vertu décisive, d'une vertu créatrice, qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. L'homme de Lascaux créa de rien ce monde de l'art où commence la communication des esprits. À Lascaux, ce qui dans la profondeur de la terre nous égare et nous transfigure est la vision du plus lointain. Ce message est au surplus aggravé par une étrangeté inhumaine. Nous voyons à Lascaux une sorte de ronde, une cavalcade animale, se poursuivant sur les parois. Mais une telle animalité n'en est pas moins le premier signe pour nous, le signe aveugle et pourtant le signe sensible de notre présence dans l'univers. Ces peintures devant nous sont miraculeuses. Elles nous communiquent une émotion forte et intime. mais elles sont d'autant plus inintelligibles. On nous dit de les rapporter aux incantations de chasseurs avides de tuer le gibier dont ils vivaient. Mais ces figures nous émeuvent, tandis que cette avidité nous laisse indifférents. Si bien que cette beauté incomparable et la sympathie qu'elle éveille en nous laissent péniblement suspendues. À Lascaux, l'humanité juvénile, la première fois, mesura l'étendue de sa richesse, c'est-à-dire du pouvoir qu'elle avait d'atteindre l'inespéré, le merveilleux. Georges Bataille, 1955.
Vous êtes sur France Culture, nous vous écoutez Les Regardeurs et nous sommes avec le grand paléontologue Yves Coppens et nous nous interrogeons à propos de Lascaux sur l'origine de l'art. Et justement Yves Coppens, l'origine de l'art, probablement on peut le dater des premières traces que l'on a de peinture corporelle ou de... Je pense en Italie, il me semble qu'on avait trouvé des fragments de colorants qui étaient utilisés pour le corps.
Oui, c'est vrai, on a trouvé des choses. Et évidemment, le préhistorien ne peut se baser que sur ce qu'il récolte.
Ça, c'était il y a 700 000 ans, à Lacerna, en Italie.
Oui, oui. C'est sur un sol, c'est apparemment utilisé en effet pour teinter quelque chose et on pense au pot, ce qui va de soi, quand on voit la manière dont les petites populations aujourd'hui continuent à se peindre avec une signification bien particulière de chacune des peintures qui n'est pas faite n'importe comment et à n'importe quel âge et pour n'importe quelle raison. Tous les gens, vous savez, toutes ces petites populations ont gardé le fait que tout geste est sacré, tout geste a un sens. Et toute partie du monde est aussi respectable et utilisée pour certains rites, certains mythes. Je me rappelle, en Nouvelle-Calédonie, c'est un petit exemple comme ça, j'avais voulu aller sur une plage pour étudier simplement la géologie, puis voir s'il n'y avait pas de pierres taillées aussi. J'en ai trouvé d'ailleurs. Et j'ai été rattrapé par des Kanaks qui m'ont dit de ne pas y aller parce que c'était une zone sacrée. Autrement dit, dans leur vision topographique, géographique de la Terre, il y a des zones qui étaient consacrées et qui étaient véritablement à surveiller, à protéger. Ce que je veux dire, c'est que l'art ne vient pas de rien, quoi. C'est-à-dire que la perception, encore une fois, moi je retourne à 3 millions d'années. Parce que là, savoir que l'on sait, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était quelque chose de tout nouveau. Ça s'appelle anticiper les choses, anticiper les fonctions. Et c'est tout à fait une autre dimension de la tête à ce moment-là. Et ces gens-là devaient ressentir ce qu'était une forme, une couleur aussi, et peut-être une densité. Vous savez qu'on a, alors ça c'est beaucoup plus récent, mais on a dans des fonds d'habitation de Néandertal, des pierres taillées bien sûr, mais aussi des pierres, des minéraux d'un certain poids, donc des roches un peu extraordinaires, récoltées parce qu'elles étaient, apparemment, parce qu'elles étaient extraordinaires.
Il y a un cristal de roche comme ça.
Et des fossiles. Oui, il y a un cristal de roche en Inde, oui.
Oui. Oui. Et donc, il y a ces pierres qu'on appelle, je ne sais pas comment on les appelle, des pierres figures,
oui,
qui ressemblent à une figure. Et donc, oui, la ressemblance, oui, a alerté l'esprit, oui, des Homo sapiens de cette période-là.
Oui, c'est-à-dire que, oui, c'est ça. Pour nous, aujourd'hui, vous savez bien, quand on regarde un nuage aussi, quelquefois on y voit des choses. Quand on regarde un caillou, souvent on y voit des choses. Ça conduit d'ailleurs à quelquefois des interprétations un peu étranges et sûrement pas juste. Mais ceci étant dit, il n'y a pas de raison que les hommes préhistoriques n'aient pas eu non plus cette vision.
Et on en a trouvé qui ont 200 000 ans en Israël.
Et dont les traits naturels sont accusés par l'homme.
C'est ça, légèrement accentué. Donc jeu avec le visible.
Oui, c'est-à-dire que là, on est sûr que l'homme de ce moment-là, comme celui d'aujourd'hui, a bien compris que la pierre naturellement ressemblait à quelque chose et que naturellement elle avait frappé ces gens qui ont accusé les traits pour eux.
Et donc, vous, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité, il y a donc 3 millions d'années, et on en a les preuves successives jusqu'à, je pense, à cette fameuse flûte d'il y a 60 000 ans, avec l'invention de la musique, l'écart des trous, qui correspondrait presque à l'écart des notes d'aujourd'hui, ce qui est hallucinant, hein. Eh bien, il n'y a pas d'expression sans une sorte de conscience, sinon du sacré, c'est quoi que le sacré, c'est le mot que vous utilisez, disons, d'une réflexion sur la finitude.
Oui, c'est pour ça que je parle de sacré, mais je ne suis pas philosophe, alors j'emploie des mots qui, sans doute, ne sont pas les mots justes. Mais en tout cas, sacré, c'est mieux que religieux, parce que finalement, la religion organise le sacré, quoi, mais le sacré est sans doute plus ancien et plus primitif. Et cette notion, en tout cas, de spiritualité, cette facette spirituelle, moi, je la vois émerger de, justement, la conscience, quoi. On ne peut pas être conscient si on n'est pas religieux, enfin, entre guillemets.
Mais vous rappelez qu'il y a peu de sociétés qui n'aient pas conscience d'un après-la-vie.
Oui, ça, c'est très joli, oui. Ce sont mes collègues ethnologues qui disent ça, là.
On n'en connaît pas. Et au fond, nous, notre société européenne devient peu à peu assez athée. Et on serait la première, au fond, depuis 3 millions d'années, à avoir ce sentiment...
Oui, mais je ne crois pas que ce soit véritablement ça. Je trouve d'ailleurs que cette notion d'athée est extrêmement primaire. Et elle n'est pas très poussée, parce que poussée, elle perdrait son sens. Donc je ne suis pas du tout convaincu par l'athéisme ou la théologie, telle que je l'ai lue il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas convaincu du tout, et je trouve que c'est une réflexion qui ne va pas très très loin, et c'est dommage.
Est-ce que vous pensez que Lascaux, justement, Lascaux et l'art pariétal, d'une certaine façon, manifeste cette familiarité avec que nous pouvons avoir, nous, hommes du XXe siècle, avec ceux du 200e siècle avant Jésus-Christ? Est-ce que ça manifeste l'évidence de la poursuite de la rêverie humaine sur ces dieux et ces mystères?
Ah, de toute façon, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense que cette histoire-là, elle est difficile à démontrer pour un préhistorien, pour un scientifique, lorsqu'il s'agit de 3 millions d'années, lorsqu'il s'agit de 500 000 ans, etc. Mais ceci étant dit, d'une part, on voit l'intérêt des gens de cette époque-là pour les périodes anciennes, puisque quelquefois, ils récoltent des objets préhistoriques anciens et ils les apportent chez eux. C'est-à-dire que pour un œil de préhistorien aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas la même époque. Oui. Et donc, ça a été recueilli comme quelque chose d'extraordinaire. Et je dis souvent que le cabinet de curiosité est finalement très ancien. Il a plusieurs centaines de milliers d'années, et ça, c'est démontrable. Ceci étant dit, j'ai souvent parlé, parce que c'est une manière facile d'enseigner, de dire que d'abord on sait ce qu'on a dit tout à l'heure, ensuite on sait qu'on sait ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, et puis ensuite on projette ce que l'on sait pour le faire savoir, en quelque sorte. Donc c'est un pas de plus, et c'est un pas de plus en même temps dans le projet. Alors je m'explique, je pense que le premier homme qui a taillé son caillou, c'était pour un usage immédiat, en dehors du côté symbole aussi tout de suite, c'était pour un usage immédiat. Celui qui a taillé son biface, c'était pour un usage, c'est plus élaboré, il n'avait pas retourné à la carrière sans arrêt, c'est pour un usage un petit peu plus long, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois. Celui qui fait les grottes, il met quand même du lien dans sa peinture pour que ça tienne. Donc, il a envie que ça ne s'efface pas tout de suite. Donc, peut-être qu'il se projette sur l'avenir un peu plus loin. Et aujourd'hui, la science vous dit plein de choses. Hein. Elle vous dit que le Soleil est inexorablement condamné dans 5 milliards d'années. C'est une sacrée projection, quand même. Donc, on est dans la même lancée, dans la même tendance, dans la même tête, au fond, hein, le même esprit. Avec ce progrès sans cesse de la pensée, de la technologie, de la réflexion, de l'observation, qui conduit à cette grande lignée des progrès à laquelle je crois. J'ai été convié, je le dis parce que je me vante, mais ça me plaît beaucoup parce que ça risque pas de m'arriver une autre fois, à mon âge, j'ai été convié par l'ONU. pour parler de progrès. Ça m'a semblé bizarre, et ça m'a semblé bizarre. J'ai hésité un peu, parce que parler d'une chose aussi grande, aussi large, c'est toujours un peu vague. Puis finalement, j'y suis allé, et il m'a semblé que j'arrivais à peu près à convaincre. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ça, et on m'a dit souvent, non, c'est pas du progrès. Et je crois que si, c'est du progrès, si. Et c'est du progrès depuis très longtemps. C'est du progrès dans la nature, c'est du progrès dans la matière, c'est du progrès dans le monde vivant, et c'est du progrès dans l'homme à plus forte raison.
Mais par l'homme, c'est un progrès dans la conscience et pas seulement dans la biologie, notre propre biologie au fond.
C'est un progrès créé, oui.
Un progrès créé.
Un progrès fabriqué, oui. C'est l'environnement, le fameux environnement culturel qui s'oppose peut-être pas, mais qui s'ajoute. Tout nouveau à l'environnement naturel.
L'importance de la culture que nous apportent les hommes depuis des centaines de milliers d'années. Merci infiniment Yves Coppens de nous avoir aidé à progresser cette fois-ci.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons parlé de la grotte de Lascaux, de la naissance de l'art, de l'avenir de l'homme, de la possibilité du progrès et de la transmission. Pour en parler, j'étais en compagnie du grand préhistorien Yves Coppens. Je vous signale également que vient de sortir aux éditions Sud-Ouest un ouvrage sur la grande histoire de Lascaux par Denis Tox et Hervé Chassin. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Merci à notre attachée d'émission et du site internet Sylvia Favre, lecture des textes India Air, à la technique Delphine Baudet, réalisation comme toujours Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy. La semaine prochaine, nous parlerons d'une peinture du XVIIe siècle de Valentin de Boulogne en compagnie de l'historien d'art Sébastien Allard et de l'artiste Julien Carin.
Before you go, babe, go until you come, babe, come until you go.